Acte 2. L'émission d'entrevue de l'association du passage à l'acte. Nous sommes aujourd'hui au Mont-Gardé, 35 hectares situés à l'entrecroisement de 8 lignes ferroviaires à haute vitesse en région parisienne. Sur ces 35 hectares, initialement un sol lunaire, comme peuvent en laisser les chantiers SNCF. Mais notre plus grand propriétaire terrien de France se donne parfois des obligations salutaires. Ici, ce fut l'idée d'un verdissement généralisé. Mais voilà, comment reverdir 35 hectares de pierre ? C'est là qu'est intervenue Agnès Sourisseau, notre invitée d'aujourd'hui. Paysagiste de bonne volonté, elle a commencé à expérimenter. On trouve ici aujourd'hui des arbres, des bosquets et beaucoup de traverses de chemin de fer. Transmuter la pierre en légumes verts, ce pourrait être le titre de cette émission, mais pour respecter la présence du TGV qui passe à 200 km/h à 20 mètres de nous, et que vous entendrez peut-être fuser derrière nous, nous l'appellerons le sol à grande vitesse. Que vous soyez sur le point de toucher au but, ou que vous laissiez vos buts produire sans rien faire, vous êtes beau, alors ouvrez bien vos oreilles. C'est acte 2, c'est culturel et c'est parti. Floem, bonjour. Agnès Sourisseau, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est ce lieu ? Je l'ai resitué un peu en introduction, mais à la base, je crois que le nom, ça s'appelle une délaissée ferroviaire. C'est quoi une délaissée ferroviaire ?
C'est plutôt un délaissé,
d'ailleurs. Un délaissé, d'accord, ok.
délaissé ferroviaire, en fait, c'est toutes les emprises acquises par le maître d'ouvrage de la ligne TGV, en l'occurrence. Donc, en fait, c'est des emprises qui sont destinées à l'usage du chantier, c'est-à-dire que c'est là où on met des bases vie pour permettre aux ouvriers de s'installer à proximité du chantier. Et donc, c'est bien au-delà de la simple emprise des rails du train. Donc, on a des hectares qui sont associés, en fait, au chantier, mais qui ne sont pas directement liés au fait de faire rouler des trains. Donc, c'est des délaissés, dans un premier temps, qui ont un usage, et puis après, qui sont des sols pour lesquels il faut trouver une nouvelle fonction. Donc, ce qui est pratiquement réalisé, c'est des compensations environnementales, c'est-à-dire que vu qu'on va être obligé de déboiser d'un côté, on va profiter de ces emprises pour replanter. Voilà, faire ce qu'on appelle du paysage monde de ligne ferroviaire. Donc c'est là où du coup les questions se posent. Qu'est-ce que ça veut dire que de paysager une ligne TGV ? Donc c'était mon travail initial et y a de quoi faire parce que ça représente quand même pas mal d'hectares, toutes ces emprises délaissées. Donc là on en est sur l'une d'elles. Mmh. Qui s'appelle les Mont-Gardé, mais effectivement, dans le cadre du chantier, ça s'appelait le Grand Triangle, puisque la géométrie du terrain est triangulaire.
Et du coup, vous êtes là depuis quand ?
Le chantier du TGV, en fait, le tracé date des années 90. Donc, il y a eu toutes les études préalables, études d'impact, etc. Et ensuite, pendant le chantier du TGV, donc c'est-à-dire début des années 2000, c'était donc une base vie de chantier. Mmh. Une fois que le chantier proprement dit de gros œuvres, le génie civil en fait a été réalisé, il y a tout ce qui arrive derrière, donc qui est le végétal. Donc si ça peut être du génie végétal, c'est bien parce que ça fait un peu contrepoids avec le génie civil. Et donc ça a démarré en 2003, en fait. De 2003, on a commencé à introduire le végétal sur ce territoire. Le dispositif qui a été, que vous voyez aujourd'hui, il a été en grande partie réalisé entre 2006 et 2007.
Donc on est d'accord, quand vous êtes arrivé, c'était de la pierre, c'était minéral, il y avait rien.
Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où ce site est devenu une base vie de chantier, il y a eu du stockage de matériaux, il y a eu des surfaces goudronnées qui ont été mises pour le parking des camions. Toute cette surface était destinée au bon fonctionnement du chantier, donc on a fait fi de la qualité agronomique des sols, c'était pas le problème du moment. Donc effectivement, une fois que la base vie est partie, il restait une plateforme qui est de sol complètement stérile, et c'est vrai qu'on peut quasiment dire que c'était un sol qui était plus proche du minéral que de la terre agricole. En termes de fertilité, c'était à peu près comme la roche-mère.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec RFF? Ils vous ont appelé et puis ils ont dit « on a besoin de vous » ou
En fait, j'étais déjà là puisque moi, j'avais travaillé sur le tracé déjà du TGV. J'étais là pour assumer le rôle de la paysagiste qui va paysager la ligne, mais que sur un certain tronçon, puisque en fait l'ensemble du linéaire a été découpé en tronçons. Donc moi je m'occupais, à l'époque j'étais sous-traitante de la SNCF, donc c'était la SNCF qui avait le marché de maîtrise d'œuvre et moi j'étais la sous-traitante. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé à Réseau Ferré de France de faire un programme de recherche pour essayer d'utiliser des pratiques qu'on n'utilise pas en général dans ce genre d'espace, c'est-à-dire que quand on veut faire venir du végétal dans des sols qui sont comme ça dégradés, ce qui est utilisé, c'est on étend de la bâche plastique et puis après on essaye de faire pousser des arbres dans des sols qui ne sont pas forcément préparés. Donc moi, je me suis dit peut-être que c'était l'occasion de profiter de ce grand chantier pour tester autre chose. Et ce qui m'intéressait, c'était le semi-direct forestier.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire semer les arbres plutôt que de les planter.
D'accord.
Donc RFF a bien voulu financer ce projet.
RFF, c'est Réseau Ferré de France.
Voilà, c'est ça.
Qui possèdent les rails.
Voilà, ouais. C'est ça. Et c'est eux qui finançaient le chantier. L'idée était intéressante parce qu'effectivement, a priori, partir de graines, ça peut coûter moins cher que partir de jeunes plants. L'idée, c'était d'arriver à mettre au point des techniques qui soient techniquement économes, à la fois en technique de mise en œuvre et en coût réel de matériaux utilisés. C'est surtout ça qui a motivé le fait que ce programme de recherche proposé soit accepté.
Et il n'y avait pas de sol. Progressivement, vous êtes en train d'en créer un. En vous appuyant sur du végétal, comment vous avez fait ?
Oui. Disons que ce qui me semblait le plus important, c'était de mettre en place des stratégies de reconquête du végétal sur ces terrains-là. Donc, partir effectivement de la graine paraissait intéressant, puisque a priori, la littérature montre que les végétaux issus de graines directement germées en place sont plus résilients. Donc du coup, ça c'était intéressant. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est maîtriser la concurrence entre les végétaux. C'est-à-dire les arbres ne supportent pas la concurrence avec les graminées pérennes. Donc c'est pour ça qu'en général, on met du paillage plastique pour éviter cette concurrence avec les herbes et les arbres. Si on part de graines, c'est plus délicat.
Oui, parce qu'il y a toute la question de la séquence forestière où on commence par une prairie, on a ensuite une lande et puis finalement on arrive à la forêt. Mais ça prend 150 ans si on veut mettre directement des arbres, j'imagine qu'il y a...
Voilà, donc l'idée était de gagner du temps pour arriver plus vite au stade forestier. Ce qui a été proposé en fait, c'est de tester trois grandes familles, c'est-à-dire des tests en associant des graines d'arbres avec des graines herbacées peu concurrentes qui donc occupent le terrain avant que les graines d'arbres ne germent. Et donc il y a eu toute une recherche en ferme expérimentale pour essayer de voir justement comment on pouvait optimiser au maximum et plutôt travailler en effet symbiotique que concurrence. C'est-à-dire que les herbacées, une fois semées, elles préparent le sol à la venue des graines d'arbres qui ont une levée de dormance pour la plupart, qui sont autour d'une année. Pendant une année, il faut réussir à occuper le terrain. Et donc, en semant un mélange diversifié de légumineuses et de surtout pas des graminées pérennes, effectivement, on sème directement la prairie. Et puis, donc, ça crée en fait un milieu favorable au développement des arbres. Donc ça, c'était une première étude. Ensuite, ce qui était intéressant pour moi, c'était partir d'un constat qui était que souvent, quand on a une clôture qui borde un champ, ça sert de perchoir pour les oiseaux. Et donc, les oiseaux qui sont les meilleurs semenciers d'arbres qu'on puisse connaître, puisque certaines graines d'arbres ont besoin du tube digestif des oiseaux pour germer, l'idée, c'était de les faire travailler pour nous, donc leur proposer des perchoirs. C'est ce qu'on a appelé des pièges à graines. Des structures qui permettent d'installer des haies sans semis et sans plantation, faire travailler le vent et les oiseaux. et donc avoir des éléments verticaux et puis aussi des éléments au sol qui font ombrière, paillage et qui favorisent aussi le développement des arbres. Donc ce qu'il y a utilisé pour ces pièges à graines, c'est en fait tout ce qu'on a pu trouver en phase chantier, c'est-à-dire des cailloux, des bouts de bois, des troncs d'arbres, des traverses de chemin de fer.
Ouais, la traverse de chemin de fer, c'est étonnant, on sent le côté historique du chemin de fer, entre guillemets, de cet endroit, parce qu'en Bretagne, ils ont des menhirs. Ici, il y a des traverses de chemin de fer qui sont piquées à la verticale. Et c'est à la fois très beau, très intrigant, très proche de l'histoire du lieu, très utile, très permacole pour le coup, parce que ça a plein de fonctions en même temps. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est des perchoirs à oiseaux.
Voilà, ça c'est des perchoirs à oiseaux. Donc au bout de 7 ans, puisqu'en fait ces traverses ont été plantées il y a 7 ans, eh bien on peut voir qu'il y a des graines d'arbres qui germent. Donc à terme, certainement, qu'il y aura un arbre vivant au pied de chaque traverse. Mm-hmm. Bon, on n'en est pas encore là, parce que il faut qu'après les arbres se développent, et donc là on en parlera certainement abondamment, mais la difficulté sur des terres comme ça délaissées en bordure de chemin de fer, c'est la présence des lapins. Et donc ça, en fait, si les graminées pérennes sont des problèmes pour le développement des arbres, les lapins,
pour la germination,
voilà, pour la germination, les lapins par contre, c'est vraiment très c'est un véritable fléau
pour la croissance postérieure.
Voilà.
C'est quoi la troisième technique que vous avez explorée?
Donc la troisième technique, en fait, c'est plutôt dérivé des techniques traditionnelles, puisque qui était souhaité, c'était trouver un palliatif au paillage plastique, justement pour lutter contre cette fameuse concurrence. Le paillage plastique a été longtemps utilisé parce que, enfin longtemps, je veux dire, à partir du moment où on a découvert les propriétés du plastique et qu'on pouvait le dérouler sur des grandes surfaces de manière agricole, finalement ça a été ce qui a supplanté les paillages plus organiques, qui sont plus difficiles à épandre sur des grandes surfaces. Donc paillage, ça vient de paille, donc c'est vrai que pendant longtemps on utilisait de la paille. Quand maintenant on est arrivé à utiliser du paillage plastique, c'était pour des questions de mécanisation. Donc sur des chantiers de cette envergure, la mécanisation est très importante. Sauf que en 2003, il y a une réglementation qui a dit que tous les usagers des paillages plastiques devaient trouver des filières pour éliminer les paillages plastiques au bout de 3 ans et les trouver des filières d'élimination.
Ah, c'est sûr que quand on doit gérer ces déchets d'un seul coup,
alors
on
d'un
s'en
seul
préoccupe.
Coup, ça changeait tout et ça changeait aussi le coût réel de ce produit. Donc ça restait pas cher de l'installer, mais ça devenait tout de suite hors de prix s'il fallait intégrer le coût d'enlèvement et d'élimination. Donc il était urgent de commencer à réfléchir à d'autres systèmes. Donc là, le troisième volet de recherche, ça a été d'étudier des paillages biodégradables qui puissent à la fois être peu chers et faciles à mettre en œuvre.
Et là, on reparle des traverses de chemin de fer. Parce que si on cherche une ressource abondante en bordure de chemin de fer, pour pailler, bah, il y a le bois des traverses de chemin de fer.
Voilà, exactement. Alors, évidemment, dans un premier temps, on se dit, bah, c'est sûr que c'est la ressource de proximité la moins chère et la plus facile à cheminer au pied des arbres. Le problème, c'est que c'est quand même du bois traité avec de la créosote, qui est quand même pas un produit anodin dans l'environnement.
Et c'est quoi la créosote?
Ben, la créosote, c'est l'équivalent d'une huile de vidange, en gros. C'est, il y a les 16 HAP.
C'est hydrocarbures polycycliques.
Voilà, c'est ça. Ceci dit, les traverses de chemin de fer ne sont pas phytotoxiques. Ça, c'est une certitude, puisque les tas de traverses abandonnées au bord des voies, très vite, il y a des végétaux qui poussent dessus. Donc ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, on sait que le végétal sait très bien digérer les hydrocarbures. Pas tous les végétaux, mais un certain nombre de végétaux, puisque tous ces produits d'hydrocarbures sont après tout des résidus de plantes. Donc en fait, la plante sait digérer ce genre de choses. Donc pour moi, c'était pas un problème dans la mesure où on pouvait proposer d'utiliser ce matériau. En observant ce qui se passe et sur la vie du sol et sur la croissance des arbres.
Et qu'est-ce que vous avez observé?
Alors, bon, c'était une recherche qui mettait en œuvre en fait 14 types de produits différents en comparaison. Donc, la référence, c'était le désherbage chimique, qui fait partie des pratiques utilisées, en fait.
Du glyphosate, quoi.
Du glyphosate au pied des arbres, du paillage plastique tel qu'on l'emploie. Donc, c'était nos deux témoins. Et puis, ensuite, les produits biodégradables qui nous paraissaient les plus intéressants. Donc, ont été utilisés des éléments venant du chemin de fer, donc les traverses de chemin de fer, mais également le ballast de réemploi,
cailloux.
Voilà, qu'on utilise beaucoup dans les chantiers ferroviaires, évidemment. Et puis après, tout ce qu'on commençait à trouver dans le commerce, c'est-à-dire tout ce qui est feutre.
Les vêtements recyclés qui sont en fait explosés et puis qu'on refait en feutre de couverture.
Alors ça peut être ça, donc ça ce serait plutôt des feutres de coton, mais après c'est toutes les feutres en fibre végétale, donc en fibre de chanvre, de jute, de sisale. En fait c'est des produits manufacturés qui coûtent assez cher, mais qui ont l'avantage d'être mécanisables. Donc ça c'était intéressant de les utiliser dans ce cadre-là, puisque ça pouvait effectivement se substituer à la mise en œuvre des paillages plastiques. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Du broyat de bois non créosoté, du plastique biodégradable, puisque ça commençait à émerger, tout ce qui était en résidus du maïs, en fait, et compagnie. Tout ça a été installé, puis après on a mesuré ce qui se passait sur la croissance des arbres. Donc le problème des programmes de recherche, c'est qu'on regarde un élément qui interagit avec un autre élément. Donc là, c'était l'effet paillage sur la croissance en hauteur et en diamètre des arbres plantés. Il y a eu deux essences plantées, le merisier et le chêne. C'était des essences intéressantes parce que c'est des essences forestières, mais aussi parce qu'elles ont des systèmes de croissance complètement différents. Le merisier pousse très vite, très droit, et le chêne, en l'occurrence le chêne Cécile, pousse très lentement et de façon complètement désordonnée au démarrage. Donc c'était intéressant de voir comment ça pouvait influencer la croissance. Voilà. Et donc, résultat de l'expérimentation, c'est que la traverse de chemin de fer est un très bon produit de paillage. Et du coup, c'est un résultat qui est intéressant, mais c'est pas pour autant qu'il faut se mettre à utiliser de la parce que c'est problématique à broyer. Déjà, c'est pas si simple. On y arrive, mais voilà. Et puis après, on n'a pas étudié tout ce qui se passait dans le sol réellement. On a vu que on peut supposer que si les arbres se développent aussi bien en croissance, en hauteur et en diamètre, c'est que ce qui se passe dans le sol leur convient. Quand on gratte un petit peu au pied des arbres, on voit qu'il y a de la vie. Donc, il y a quand même des animaux. Il faudrait après, effectivement, observer précisément la santé de toute cette faune du sol pour voir si elle est influencée ou pas par les substances d'hydrocarbures. À l'œil nu, on ne le voit pas. Tout le monde a l'air en bonne santé. Et puis, après, on n'a pas regardé ce qui se passait dans les eaux de ruissellement, on ne sait pas.
Et puis, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de faire du bois qui va rester en place longtemps pour éventuellement un jour faire du bois d'œuvre. On n'est pas dans une production potagère dans ces endroits-là où on va manger les légumes, les feuilles ou même les racines directement.
C'est ça. Donc, pour le coup, si, alors il peut y avoir les oiseaux qui mangent les merises et les cochons qui mangent les glands, qui ont été paillés avec ce genre de produit. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe sur les oiseaux. Là, maintenant, il y a des cochons sur ce terrain qui vont certainement manger des glands, des chênes. Bon, faudrait voir. Dans un premier temps, c'est vrai que c'était pas pour faire de l'arbre fruitier. Donc, pour le bois d'œuvre, a priori, c'est pas gênant pour l'humain, mais ça peut être gênant pour les oiseaux, ça, j'en sais rien.
Et sur les deux autres choses que vous avez testées, parce que vous avez testé le semis en graines directes avec différents mélanges. Et vous avez testé une autre chose, c'était le piège à graines. Vous commencez déjà à avoir des résultats et puis à pouvoir faire des tests un peu comparatifs ou pas? Parce que là, ça fait une dizaine d'années.
Pour moi, l'idéal, ce serait de pouvoir développer ces techniques ailleurs. C'est-à-dire qu'on sème encore assez peu d'arbres. Malgré tout, moi j'ai fait des tests avec des techniques particulières qui sont à la fois des techniques agricoles et des techniques avec des hydrosemeurs, avec des densités de graines particulières. On a des résultats de ça, c'est très prometteur, Je pense que c'est des techniques tout à fait dignes d'intérêt, très très compétitives par rapport aux plantations telles qu'elles sont pratiquées. Donc il y a encore, je pense, énormément de travail et de recherche à faire. Il faudrait que ça se développe. Donc c'est des techniques, effectivement, on peut voir que les arbres issus de semis, effectivement, au bout de 7 ans, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus résilients que des arbres plantés, ne serait-ce que par rapport à la prédation des lapins, par exemple. Ils résistent beaucoup mieux au broutage que des arbres plantés. Et puis, par ailleurs, tous ces systèmes-là devraient être déclinés en fonction des usages qui seront
Oui.
faits. C'est-à-dire que on peut semer des forêts pour faire du bois d'œuvre, on peut semer des forêts pour faire des forêts fruitières, on peut semer. Et donc après, tout est permis, je dirais. Ça donne envie de.
D'aller un petit peu plus loin. Pour toi, c'est quoi l'enjeu de faire ce type d'expérimentation?
Mais les enjeux sont multiples, mais ce que je me dis maintenant, après 7 années de suivi, c'est qu'il y a quand même un réel enjeu à pouvoir intervenir sur des endroits qui s'appellent des délaissés, parce qu'effectivement, ils n'ont pas d'usage. Et arriver à faire ce qui a été fait ici, c'est-à-dire reconquérir en fait la vie sur du stérile, c'est quand même un enjeu qui peut paraître assez essentiel. Donc la vie, on peut dire qu'elle peut revenir sans nous, c'est sûr, mais que là, on arrive justement à travailler avec le vivant en bonne entente et à. Effectivement, alors après, on peut aussi se dire, oui, mais du coup, on peut bien pourrir la planète entière. Après, on va pouvoir, avec ce genre de pratique, réparer.
Ouais, enfin,
C'est, voilà, je
je pense
pense.
qu'on n'a pas attendu qu'il y ait ce genre d'expérimentation pour artificialiser les sols et bétonner
Voilà.
l'équivalent d'un département tous les 10 ans, quoi.
Voilà. Alors, donc là, vu qu'on arrive quand même à recréer des paysages qui deviennent à nouveau aimables après avoir été pourris et détestables, ben, je pense qu'il y a quand même du boulot un peu partout à essayer de redonner de la vie et donc de la beauté aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a du coup une véritable implication du vivant, mais qui travaille aussi avec la mort, hein, d'une certaine manière, puisque les travers de chemin de fer sont des éléments inertes qui ont été implantés et qui redonnent de la vie. Donc en fait, c'est une vision pas du tout morbide, mais au contraire, qui est vraiment pour moi le travail avec la notion de vie, en fait, qui intègre forcément la mort, mais comme composante, c'est-à-dire que ça fait partie d'un cycle. Et donc on regagne sur quelque chose qui est devenu vraiment morbide, c'est-à-dire un sol stérilisé où il n'y a rien, c'est morbide. Et là, je pense que l'enjeu, il est vraiment très important, parce que bon, c'est vrai qu'arriver dans un paysage qui est déjà beau, déjà bon, on peut toujours y participer, y contribuer, mais les enjeux sont quand même beaucoup plus importants là où il y a quand même eu des gros 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 c'est l'ordre du désastre, hein, par endroits.
D'être dans une dynamique de restauration, c'est au moins aussi important que d'être dans une dynamique de retour à la terre et aller trouver son lieu de paradis déjà tout près.
Voilà, je pense qu'on peut en recréer des paradis et on peut en recréer absolument partout, et ça c'est encourageant.
Ah ouais, ça donne de l'optimisme. Merci.
D'aller beaucoup plus
On
loin
peut te
même.
contacter si on a envie d'avoir les informations à ce sujet-là?
Ah ben oui,
Oui,
tout à fait.
sans souci. Par quel contact on peut passer?
Alors, le plus simple, c'est de passer par le site internet
D'accord.
du lieu où nous sommes, qui s'appelle Les Monts Gardés, donc
D'accord.
les-monts-gardés au pluriel.com.
D'accord, sans l'accent, sans
Voilà.
le et. Ok, d'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est des essais qui sont faits ici. Qui vont donner des résultats pour ici, mais qui pourraient être utiles de décliner ailleurs pour sous d'autres climats, sur d'autres terrains, pour voir ce que ça peut donner.
Plus
On
loin
peut te
même.
contacter si on a envie d'avoir les informations à ce sujet-là?
Ah ben oui,
Oui,
tout à fait.
sans souci. Par quel contact on peut passer?
Alors, le plus simple, c'est de passer par le site internet du lieu où nous sommes, qui s'appelle Les Monts Gardés, donc les-monts-gardés au pluriel.com.
D'accord, sans l'accent. Voilà. Sur le et. De ce qu'on en voit, effectivement, les résultats ont l'air d'être assez prometteurs, parce que quand on se balade sur ton lieu, c'est pas un champ de traverse de chemin de fer planté à la verticale. C'est, quand on traverse, on voit vraiment, certes, des grandes différences d'une parcelle à une autre, mais il y a des parcelles qu'on pourrait dire de vergers. Ce sont des vergers. C'est le stade merisier avec des troncs qui font 10 cm. Donc, qui en 10 ans, on a des jeunes arbres tout à fait bien importants. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'autres végétations parce que, comme tu disais, il y a des lapins, mais qui jouent aussi leur rôle dans le système.
Ils jouent le rôle aussi dans la gradation des sols, hein, oui. Puisque de fait, à gratouiller partout et à faire des crottes partout, ça finit par.
Ils mélangent.
Voilà. Et donc, là, par rapport à la question première qui était. Comment le végétal sert la gradation des sols, il est certain maintenant que ces systèmes-là sont vraiment adaptés à des sols dégradés. Ils prennent peut-être plus de temps à faire un effet souhaité, voilà, visuel, mais le travail de fond est réalisé, c'est-à-dire que les racines des arbres vont bien
pénétrer,
déstructurer en fait le sol qui pourrait rester encore compacté.
Donc, casser les agrégats,
voilà,
les racines
et
vont s'enfoncer.
Le fait d'associer des herbacées sélectionnées aux arbres, c'est pareil. Il y a des arbres qui ont un système racinaire dont c'est le rôle premier, c'est-à-dire c'est d'éclater le sol. Donc tout ça, ça prend effectivement un petit peu plus de temps. Mais au final, c'est sûr qu'on y gagne sur tous les plans, parce que déjà, ça coûtait moins cher à l'installation. Et puis ensuite, on a des végétaux qui sont beaucoup plus résistants et puis des milieux qui sont beaucoup plus diversifiés. C'est-à-dire que de la bâche plastique et des arbres, ça reste de la bâche plastique, alors que là, on a déjà un couvert herbacé qui est riche en biodiversité. Et puis après, ça permet aussi à la banque de graines du sol de s'exprimer en effet plus ou moins symbiotique avec ce qui a été mis en place.
Oui, on bosse en coopération plutôt que de bosser sans tenir compte de ce qu'il y avait avant. Parce que quand on bâche en plastique, la banque de graines du sol, donc les graines qui sont dormantes dans le sol, elles n'ont aucune chance de passer à travers ce truc-là.
Oui, et puis c'est surtout que si on c'est très utile de bâcher, justement, parce que si on n'essaye pas de les concurrencer, il va y avoir des adventices qui sont pas contrôlés pour le coup et qui peuvent être très concurrents. Donc c'est vraiment utile le paillage. Mais là, avec des semis contrôlés, on arrive à avoir des effets qui sont peut-être moins efficaces qu'un paillage en plein, mais qui ont des avantages beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire qu'ils amènent de la biodiversité, ils amènent un couvert sur le sol qui donc permet une bonne vie du sol, parce que le paillage plastique n'amène pas forcément une vie suffisamment intéressante. Quoique, sous un paillage plastique, on peut voir plein de vers de terre.
Il peut y avoir plein de choses, mais forcément.
Voilà, donc après, il faut quand même donner à manger à cette vie du sol, et donc les plantes qui sont là en couvert permettent de nourrir en fait
de nourrir la vie du sol.
Voilà.
Mais j'imagine qu'il ne devait pas y avoir des budgets colossaux sur ces choses-là. Est-ce que le fait peut-être d'avoir des budgets restreints a conditionné un certain nombre de recherches de solutions?
Alors, les budgets restreints, ils sont. Enfin, disons que au départ, il y a eu quand même des gros moyens qui ont été mis en place pour mettre. En œuvre tous ces dispositifs de tests expérimentaux suivis par des organismes de recherche agrémentés. Il y a quand même eu l'INRA, la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne, l'Institut du développement forestier et le CEMAGREF qui ont travaillé sur ce projet. Donc, c'est des organismes qui ont été rémunérés.
Puis, donc, tu n'as pas travaillé dans ton coin comme ça.
Non.
Si quelqu'un voulait faire un truc de ce type-là, ce serait assez utile qu'il se tourne.
Voilà. Et puis, c'est surtout qu'on a quand même pas mal défriché parce qu'il n'y avait pas grand-chose ni en littérature ni dans le reste de l'Europe comme expérience.
C'est une plante pionnière en fait.
finalement, on peut dire que ce site, il est assez unique dans l'ampleur de son dispositif de tests scientifiques. Et puis après, dans ce qu'il a pu devenir, puisque depuis 7 ans, on continue encore à observer ce qui se passe, et peut-être, j'espère, encore sur 30 ans. Enfin, on est parti d'une année zéro, c'est-à-dire, comme tu disais, la Lune, et voir comment le végétal en plus ou moins contrôlée, en fait, mais quand même en conditions contrôlées malgré tout, arrive à restaurer en fait un milieu qui était complètement un désert, en fait.
C'est quand même assez verdoyant, hein, pour le coup. On voit des herbacées, des plantes, il commençait à y avoir de l'aubépine à certains endroits, des ronces. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle augmentation de la vitesse de production de sol, de création de sol et de constitution de la communauté végétale? Et est-ce que tu penses que c'est lié à certaines techniques plus que d'autres sur le terrain?
Bah clairement, puisqu'il y a quand même des parcelles témoins où justement on a laissé faire complètement. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose, parce que sur un sol mort, ça prend quand même un certain temps avant qu'il y ait tout le cortège en fait, qui se mette en place pour recréer du sol.
Ouais, des centaines, voire des milliers d'années parfois.
Voilà, donc là, c'est quand même des processus d'accélération qui sont visibles très, très clairement. Donc voilà, je pense que c'est un équilibre entre le faire et le laisser faire. Enfin, quand tu parles, il y a des ronces, des aubépines. Enfin, il y a pas que ça. C'est-à-dire, c'est pas toutes ces parcelles de test n'offrent pas que des végétaux qui seraient venus tout seuls et que je n'aurais pas semé. C'est-à-dire, la ronce, effectivement, je l'ai pas semée. Mais on voit bien que là où la ronce arrive, en fait, ce qui a été semé est beaucoup plus protégé de la dent du lapin et du coup se développe beaucoup mieux. Donc c'est là où l'interaction entre ce qui pousse tout seul et ce qu'on a semé devient tout à fait intéressante.
Le lapin, c'est vraiment une thématique ici, hein.
Ah oui, oui.
Mais c'est vrai que c'est la deuxième chose qu'on voit après les traverses de chemin de fer. Je pense même qu'on voit les lapins avant les traverses de chemin de fer, parce qu'ils sont sur les chemins partout. C'est un truc.
Oui, ça... alors, bon, ben, là aussi, hein, l'animal fait partie de la reconquête d'un milieu. Donc, il y a l'animal domestique qu'on peut introduire, mais il y a aussi l'animal qui vit dans ce milieu-là, donc en l'occurrence le lapin. Et si on veut que ces endroits-là puissent devenir des endroits de production, il faut aussi faire avec la ressource locale, donc le lapin. Et c'est sûr que depuis 2007, donc on essaye de valoriser au maximum toutes les productions qu'on peut faire sur ce lieu. Donc il y a à la fois des résultats de recherche scientifique, mais il y a aussi des denrées alimentaires. Donc les lapins, ensuite ont été installées des ruches, des moutons. Donc en fait, il y a un système de gestion qui s'est mis en place, qui est associé donc pour moi à de l'agroforesterie et de la permaculture. C'est pas une formation préalable que j'aurais eue, ni en agroforesterie, ni en permaculture, mais c'est finalement des choses qui sont venues complètement naturellement. Aujourd'hui, on peut les assimiler à de l'agroforesterie et de la permaculture, mais ça n'a pas été fait initialement pour rentrer dans ces cases-là.
Oui, t'as redéduit, ou alors les choses se sont passées, en fait.
De toute façon... Quand il faut gérer ces 35 hectares qui étaient au départ des tests scientifiques, ça n'empêche que l'herbe pousse, ça n'empêche que ça coûte de l'argent, ça n'empêche que tout ça. Donc à un moment donné, 35 hectares, comment est-ce qu'on fait pour les occuper et faire en sorte qu'on puisse continuer à faire des observations et continuer à faire en sorte que le processus soit dans une dynamique de, comment dire, d'amélioration permanente. Donc chaque année, on rajoute des éléments qui finissent par constituer un agro-système où on a, au départ, si c'était que des parcelles forestières qu'on a mis en place, aujourd'hui, c'est une imbrication de parcelles forestières, de prairies, de haies, d'arbres en alignement qui vont donner du bois d'œuvre. Et puis, il y a tout ce qui est lié à de la production, donc de légumes aussi, avec toutes les strates de l'horizontale à la verticale, donc des strates herbacées, arbustives, arbres fruitiers, arbres de bois d'œuvre. Tout ça, en fait, produit et permet de générer, en fait, une économie globale du système.
Y compris les lapins qui finissent en pâté.
Exactement, voilà.
Mmh. Important pour réguler la population de lapins.
Oui, oui, donc voilà, la chasse fait aussi partie de la vie et de la gestion de ce lieu.
Il y a combien de parcelles et elles font quelle taille de, les parcelles de test?
Il y a environ 200 parcelles de 800 mètres carrés.
Voilà, parce que 35 hectares, je ne suis pas sûr que ça parle à beaucoup de gens pour quelqu'un qui vit dans 50 mètres carrés.
Oui, oui, et donc...
Et puis entre, il y a des chemins de bonne taille aussi.
Voilà, possible. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 35 hectares, il y a la moitié qui est réservée au développement forestier. Mm-hmm. Et l'autre moitié qui est développement autre. En fait, c'est une imbrication des structures végétales, de l'arboré à l'herbacé. Et donc, en ce sens, c'est de l'agroforesterie qui est très différente de ce qu'on peut voir. Le bocage est un système agroforestier, les alignements d'arbres intraparcellaires, c'est de l'agroforesterie. Ben ici, il y a un peu de tout. Il y a à la fois des lignes d'arbres intraparcellaires, il y a à la fois des haies, il y a à la fois des bosquets, qui sont associés à des surfaces de prairies où il n'y a pas forcément d'arbres. Et du coup, vu qu'il y a des haies et des bosquets, voilà, on a quand même un effet bénéfique de toutes les strates qui sont associées, combinées en fait. C'est différentes combinaisons de végétal et d'animaux.
En fait, vous avez une diversité qui est très grande en termes de justement d'écocénose, de type d'environnement, mais ce sont en fait 800 mètres carrés, plus 800 mètres carrés, plus 800 mètres carrés, enfin, qui font comme ça un patchwork de possibilités avec tout un tas de bordures et de frontières d'interaction.
Voilà, on pourrait dire que le tout est supérieur à la somme des parties.
On est dans la permaculture.
Oui, oui, puis bon, ce qui m'intéresse aussi, puisque moi, ma formation initiale, c'est paysagiste, en fait, on est en train de constituer un paysage qui est bien loin de ce dont on est parti, c'est-à-dire une dalle stérile. Et là, on a déjà tout ce qui constitue un paysage qui est ici organisé de façon tout à fait spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas reproductible ailleurs. Et justement, on peut se plaindre de la banalisation des paysages et des milieux. Avec ce type de technique, en fait, on va pouvoir, si ça se développe, imaginer toute une diversité de paysages en fonction des lieux, en fonction de là où on va pouvoir le développer, quoi. Et donc ça, c'est quand même encourageant et enthousiasmant. On a envie de voir ça, plutôt que tous les paysages qu'on a autour, qui sont quand même les paysages de l'abri agricole, donc Plaine de France, par exemple, qui est le paysage qu'on peut voir du site. C'est quand même un paysage extrêmement plat, avec pas un arbre à perte de vue.
Propre, comme
voilà,
on dit.
Propre et de la grande culture. Bon, ben là, quand on arrive ici, c'est complètement différent.
Ah, c'est pas propre.
Voilà, ça se discute.
J'ai entendu dire que vous aviez mis sur pied un petit guide de reconnaissance des jeunes plantules, c'est vrai?
Alors oui, dans le cadre de cette recherche, on avait travaillé donc avec l'INRA, à nous aider à avoir un outil pour reconnaître les essences ligneuses au stade juvénile, puisqu'en fait, ça n'existe pas. On a des guides de reconnaissance des arbres à âge adulte, mais dans ce genre de technique, il faut savoir reconnaître les jeunes plantules, parce que c'est pareil, si on doit les sélectionner, il faut savoir qui pousse où et comment. On a réalisé un suivi botanique depuis la réalisation jusqu'à maintenant, où on regarde ce qui pousse sur l'ensemble des parcelles. Mais il nous fallait cet outil pour bien reconnaître, parce que ça existe sur les herbacées, hein, les guides de reconnaissance. Mais effectivement, sur les ligneux, il n'y avait vraiment pas grand-chose.
C'est vraiment, les jeunes plantules sont parfois très très différentes des adultes.
Ah, très 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 différentes. Et ben, c'est surtout qu'elles se confondent beaucoup avec des herbacées. Hein, au stade de dicotylédon, par exemple, c'est très difficile. Mais donc, grâce à ce guide, ça nous a vraiment été fort utile. Et c'est vrai qu'on se dit que ce serait vraiment utile de pouvoir diffuser largement ce guide. Covid.
Avis aux éditeurs, on en parlera à Passerelle Éco.
Ah ben oui, non, mais je pense que ce serait vraiment très très utile. Puis ça permettrait aussi de regarder les arbres autrement que le nez en l'air. Mais justement le nez par terre et se dire qu'avant d'être grand, un arbre est déjà tout petit et est passé par le stade de graines et plantules. Et c'est une autre façon d'observer la nature et le monde du vivant.
Eh bien Agnès Sourisseau, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle le site internet www.les-mont-gardé.org.
.com,
lesmontgardé.com, sans accent sur le « et », pour avoir plus d'infos, des photos de cet endroit-là, et éventuellement vous contacter pour... vous contacter pour parler de ce guide de jeunes plantules ou parler de comment on pourrait exporter ces expérimentations dans d'autres milieux et leur donner des ramifications et de la diversification encore et encore. Merci beaucoup et puis bonne journée.
Merci.
À bientôt.
C'est la fin de ce numéro de Acte 2, une balado-diffusion de l'association du passage à l'acte par Flo Msev. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avance de partager ces sons avec les gens qui vous entourent, de les faire circuler largement, car nous refusons l'industrie de la publicité, nous préférons et de loin la réputation que vous nous faites. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous commander des formations, des conférences ou des animations, nous faire un don et bien sûr guetter nos prochaines publications. Rendez-vous très bientôt sur apsala.org, onglet podcast, texte ou formation.